La première,
9h-10h,
l'histoire continue,
Bertrand N., Hélène Maquet.
Voilà le royaume des snipers russes.
Nos investigations montrent qu'il y a des combattants étrangers, qu'il y a des mercenaires en Libye.
Il est sans foi ni loi.
La guerre, c'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. C'est ce que disait Georges Clemenceau, Premier ministre français, avec une certaine ironie.
Alors pourquoi ne pas la confier à des paramilitaires, à des sociétés privées ? Pourrait-on aujourd'hui lui répondre avec un certain cynisme ?
Avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une société militaire privée russe se retrouve sur les lignes de front, le groupe Wagner.
Mais qui sont ces hommes ? Que disent-ils de la manière dont on fait la guerre aujourd'hui ? C'est ce que nous allons tenter de comprendre dans cet épisode.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue.
Oui, une émission très contemporaine, très actuelle aujourd'hui, qui nous mène jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette guerre arrivée par surprise le 24 février 2022, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, où nous le voyons régulièrement dans la presse depuis quelques mois, un groupe paramilitaire privé, des hommes en tenue de combat, sans écusson, sans insigne, sans affiliation à une armée, sont actifs sur les lignes de front, le groupe Wagner.
Une société qui peut faire la guerre contre de l'argent et qui est née en réalité parallèlement aux tensions entre l'Ukraine et la Russie en 2014, juste après l'annexion de la Crimée et la situation de guerre dans le Donbass. Mais en réalité, le groupe Wagner est actif dans d'autres endroits du monde.
Et ça pose beaucoup de questions. Quel est son modèle économique ? Le groupe Wagner est-il une excroissance du pouvoir russe ? Agit-il en dehors de tout cadre légal ?
Le groupe Wagner et son fondateur, l'homme d'affaires russe Evgeny Prigogine, sont longtemps restés discrets, mais aujourd'hui, c'est comme s'ils avaient décidé de sortir de l'ombre. Est-ce vraiment le cas ? C'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui.
Avec nous pour en parler, Nicolas Gosset, bonjour.
Bonjour Hélène Maquet.
Vous êtes chercheur au Centre d'études de sécurité et de défense de l'IRSD, spécialiste de la Russie. Vous êtes à la fois un expert de la Russie et de l'Ukraine et un expert des questions militaires. Quand on cherche à parler du groupe Wagner, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'experts pour en parler et même plus largement pour parler des sociétés militaires privées. Est-ce que vous diriez que c'est un enjeu que les États, les gouvernements et peut-être même éventuellement le monde académique ont sous-estimé jusqu'ici ?
Alors c'est vrai que la recherche sur les compagnies militaires privées n'est pas très développée, surtout dans le monde francophone. Dans le monde anglo-saxon, il y a quand même davantage de recherches parce qu'il y a aussi plus d'activités paramilitaires. En tant que telle, on pense à Blackwater par exemple. Alors Wagner a quand même généré ces dernières années un nombre croissant de recherches, mais l'information disponible était tellement maigre que tout le monde puisait finalement à la même source, ce qui fait que finalement ce qui arrivait au bout de l'entonnoir n'était pas toujours très qualitatif. C'est surtout les journalistes qui ont aidé à débugger le problème Wagner ces dernières années.
Allez, on se replonge dans cette actualité récente pour laquelle on a assez peu d'archives et on repart en Libye.
Été 2021. Sous son chapeau kaki, derrière son collier de barbe noire, Eitam Werfali veut tout montrer aux journalistes de la BBC qui sont venus l'interroger. Du haut de ses 23-24 ans et de sa carrure de géant, il garde un visage d'adolescent. Pourtant, ni l'épaisseur de ses épaules, ni le motif camouflage de son t-shirt ne peuvent trahir l'enfer qu'il a vécu ici, un an plus tôt, à Aïn Zahra, cette banlieue du sud de Tripoli, en Libye. Le jeune homme grimpe l'escalier d'une maison en ruine. Et tout en haut,
voilà le royaume des snipers russes.
Une pièce délabrée, un trou béant traverse le mur. La pièce abrite des sacs verts remplis de sable. Empilés les uns sur les autres, ils forment un mur de protection qui s'élève jusqu'au trou qui donne vue sur les environs.
Qu'est-ce que vous pensez des Russes qui étaient ici ?
Les mercenaires, tout ce qu'ils veulent, c'est de l'argent, gagner beaucoup d'argent. Ils tuent les gens, propagent la terreur, commettent des crimes pour de l'argent.
Ces souvenirs de Eitam Werfali remontent à un peu plus d'un an. Au printemps 2020, il a combattu pendant 9 semaines aux côtés des forces de l'accord, gouvernement reconnu par la communauté internationale, face aux troupes du maréchal Haftar, l'homme fort de l'est du pays, qui voulait instaurer une dictature en Libye. Heitam Werfali a vu les hommes de Wagner combattre aux côtés des troupes du maréchal Haftar. Et si les journalistes de la BBC ont remonté la trace des miliciens de Wagner jusqu'à Ayn Zara, c'est à cause d'une tablette retrouvée dans les ruines des combats. Une tablette Samsung blanche, prise dans un étui de cuir marron. Dans le coin supérieur gauche, l'écran est fissuré. Mais ça n'a pas empêché les journalistes de la BBC de l'allumer et d'y trouver une quantité d'informations écrites en lettres cyrilliques d'une rare qualité sur ce groupe dont on n'entendait parler qu'à travers des témoignages. Alors qui sont ces hommes du groupe Wagner? Agissent-ils pour leur propre compte ou pour celui de la Russie? Quelques mois plus tôt, en janvier 2020, Vladimir Poutine est en conférence de presse aux côtés de la chancelière allemande Angela Merkel. Il assure qu'il n'est au courant de rien. La Russie n'a officiellement envoyé personne en Libye.
S'il y a des citoyens russes sur place, ils ne représentent pas les intérêts de la Russie et ils ne sont pas payés par la Russie. Il y a souvent beaucoup de mercenaires dans une zone de conflit, y compris, d'après nos informations, de nombreux mercenaires qui ont été transférés d'Idlib, en Syrie, jusque vers la Libye. Et c'est très inquiétant.
Octobre 2021, quelques semaines après le reportage de la BBC, lors d'une conférence de presse tenue à Tripoli, en Libye, un groupe d'experts des Nations Unies confirme la présence du groupe Wagner sur place.
Nos investigations montrent qu'il y a des combattants étrangers, qu'il y a des mercenaires en Libye. Ils n'ont pas quitté le territoire libyen comme ça a été demandé.
Chaloka Beyani, expert aux Nations Unies, soulève l'inquiétude de l'ONU sur la présence de combattants étrangers qui auraient été en Syrie auparavant, des mercenaires privés engagés par le groupe russe Wagner et qui auraient pris part au combat pour la capitale libyenne de 2019 à 2020 et qui donc, en 2021, n'auraient toujours pas quitté le territoire. Alors, pour comprendre qui sont ces hommes et ce qu'est le groupe Wagner, il faut remonter quelques années en arrière et faire d'abord la connaissance de Dmitri Outkine. Un homme au crâne rasé, vétéran des forces spéciales russes, le torse tatoué de symboles à la gloire du Troisième Reich, Dmitri Outkine est un néo-nazi sanguinaire.
Il est sans foi ni loi, pas de principes moraux. Pour lui, la fin justifie toujours les moyens, peu importe quelles sont les pertes.
Ces mots sont ceux d'un ancien combattant de Wagner qui s'est battu aux côtés de Dmitri Outkine. Nous sommes en 2013 et le vétéran des forces spéciales vient de fonder une société militaire privée, le Corps Slave, société enregistrée à Hong Kong et active en Syrie, aux côtés des forces de Bachar el-Assad. Pour comprendre qui est le groupe Wagner, il faut aussi faire la connaissance d'un autre homme, Evgeny Prigogine. Homme d'affaires de Saint-Pétersbourg, après avoir lancé un restaurant à succès, il est devenu l'intendant en chef, le puissant cuisinier du Kremlin, fidèle au président Vladimir Poutine. La société d'Evgeny Prigogine s'appelle Concord Limited. Cette société est accusée par les États-Unis d'avoir financé une autre entreprise privée basée dans un grand bâtiment de Saint-Pétersbourg, l'Internet Research Agency, fermatrol à la base des tentatives d'ingérence dans l'élection américaine de 2016 notamment. Evgeny Prigogine est un homme de pouvoir qui va encore monter en puissance. Nous sommes en 2014. Et la Russie vient d'annexer la Crimée via un référendum.
Vladimir Poutine a signé le traité qui intègre la Crimée à la Russie. Il s'est justifié en disant que la Crimée était et reste dans le cœur des Russes.
Quelques semaines plus tard, le 1er mai 2014, Evgeny Prigogine fonde PMC Wagner Group, société privée paramilitaire qui ne semble enregistrée officiellement nulle part. Et il est rejoint à sa tête, par Dmitri Outkine, l'ancien vétéran des renseignements russes, au tatouage qui symbolise le Troisième Reich. Le nom Wagner serait d'abord le surnom de guerre de Dmitri Oudkine, surnom qu'il avait choisi en hommage à Richard Wagner, le compositeur préféré d'Hitler. Après l'annexion de la Crimée, la situation se tend à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass.
Des images impressionnantes, celles d'officiers ukrainiens arrêtés et manifestement maltraités par des séparatistes pro-russes. Ces images proviennent de Slaviansk, dans l'est du pays.
C'est là, aux côtés des milices pro-russes, dans l'hiver du Donbass, que les hommes de Wagner vont faire leurs premières armes ensemble, contre l'armée ukrainienne. Ils sont là, en tenue de combat, mais sans insigne militaire. Mais le groupe Wagner n'opère pas uniquement dans le Donbass. On retrouve aussi ces hommes en Syrie, là où le corps slave de Dmitri Oudkine s'était déjà rendu. Là, les hommes de Wagner combattent auprès des forces spéciales russes, auprès de l'armée officielle. Après la Syrie, une partie du contingent se déplace en Libye, là où Etta Mouerfali les a rencontrés, là où, dit Vladimir Poutine, aucun soldat russe n'a été déployé. D'après l'ONU, entre 800 et 1200 mercenaires russes du groupe Wagner se sont battus en Libye, aux côtés des troupes du maréchal Haftar, parmi eux, 39 snipers. On a aussi vu des hommes de Wagner en République centrafricaine, au Mali. Plusieurs ONG les accusent d'être responsables d'actes de torture, d'exécution et de viol dans ces zones de conflit. Et puis évidemment, on les voit depuis l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février 2022. D'abord présents discrètement, les hommes de Wagner se sont fait de plus en plus visibles. Tout comme Evgeny Prigogine. On l'a vu sur des vidéos qui ont fait le tour du monde, haranguer des prisonniers russes dans la cour d'une prison. Il leur proposait 6 mois de combat en Ukraine contre la liberté.
Le premier péché, c'est de déserter. Personne ne tombe. Personne ne bat en retraite. Personne ne se constitue prisonnier. Lors de votre entraînement, on vous parlera de 2 grenades que vous devrez avoir sur vous lorsque vous vous rendez.
Peu à peu, l'homme d'affaires se transforme en homme de guerre. Il a troqué le costume 3 pièces pour le treillis militaire et les combat shoes. De plus en plus, on le voit apparaître avec les hommes de Wagner sur le front ukrainien. Fin septembre, Evgeny Prigogine a finalement reconnu qu'il était le fondateur de Wagner.
La première,
l'histoire continue.
Hélène Maquet, Bertrand Haine.
Alors, Nicolas Gosset, je rappelle que vous êtes spécialiste de la Russie. On va d'abord revenir avec vous sur la genèse donc, de ce groupe Wagner. Est-ce qu'on en sait ? Parce que, quelque part, c'est encore assez flou.
Oui, quelque part, on peut peut-être commencer par cette personnalité d'Evgeny Prigogine. Ce n'est pas quelqu'un qui, à la base, en tout cas dans l'histoire qu'on lui connaît, a vocation à faire la guerre.
Bon, est-ce que quelqu'un a vocation à faire la guerre ? C'est en tout cas quelqu'un qui, à la fin de l'Union soviétique, dans les années de la perestroïka et dans les premières années de la nouvelle Russie indépendante, a eu un passé criminel et un passé pénal, puisque c'est quelqu'un qui a été condamné à 9 ans de prison, qui en eut purgé effectivement 6, et alors qui a été condamné pour des activités de vol en bande organisée, de proxénétisme.
C'est donc, un truand.
C'est un truand. C'est une petite frappe de la fin de l'Union soviétique, quand l'État était déliquescent, quand la société allait à volo et que certains plus malins ou plus avides que d'autres trouvaient les possibilités de naviguer dans les interstices du système.
Alors c'est aussi étonnant, on l'entend dans le récit, Evgeny Prigogine, au tournant des années 2010 ou 2014, il lance Wagner et en même temps, il finance l'Internet Research Agency qui est ce que les Américains en tout cas perçoivent comme le grand bras de la propagande russe sur Internet. C'est quand même étonnant de trouver la même personne à la base de ces deux grosses agences, entre guillemets, je ne sais pas comment il faut les appeler.
Effectivement, pour l'Internet Research Agency, c'est clair. Par contre, pour l'origine même de Wagner, il y a quand même beaucoup plus d'indécision, puisque l'origine, vous l'avez mentionné, c'est un groupe d'anciens des services de renseignement militaire, des Spetsnaz, qu'on appelle Oudkine. Et c'est Oudkine qui a lancé en fait le groupe à la base de Wagner. Et à un moment donné, et c'est là qu'il y a une zone d'ombre historique, il y a un jeu de chaises musicales entre Oudkine et Wagner comme la tête public mais non déclaré du groupe. Mmh. Voilà, je ne sais pas comment le dire, parce qu'en fait, ils ne sont ni propriétaires, ni chefs véritablement. Est-ce que c'était des prête-noms ? Mais il y a eu un moment donné où il y a eu ce glissement entre Outkine et Prigogine, l'un restant ami, hein, parce qu'aujourd'hui, Outkine est le directeur général de Concorde. Hein. Donc, ils sont dans le
Concorde
même univers.
Concorde qui est la société de Prigogine qui finance à la fois l'IRA.
C'est ça, c'est quelque part la façade économique. C'est la raison d'être économique, c'est en fait une société de catering hein, qui a tous les contrats pour le système de l'éducation nationale russe, pour
qui fait l'armée de la nourriture.
Russe, qui fait de la nourriture industrielle. C'est un Sodexo russe. Voilà.
Alors, à la base, vous le disiez, Dmitri Outkine, ce premier noyau qui vient du GRU, qui vient des services secrets russes, c'est qui les militaires de Wagner, au départ ?
L'identité d'Outkine dit tout. Hein. Donc, ce sont des gens qui ont un pied à l'intérieur de l'institution militaire, ou en tout cas de la nébuleuse des services de renseignement, mais c'est vraiment le bras armé, le GRU, hein, c'est une force d'intervention. Donc, qui ont un pied dedans et qui ont une partie de leurs activités qui évolue en périphérie. Et c'est là, en fait, quelque part, qu'est le ver initial dans la pomme de Wagner. C'est, on comprend que le lien même entre l'institution militaire classique et la zone grise est un indissociable. Ce qui amène à questionner, pendant de nombreuses années, encore maintenant, l'existence réelle en tant qu'organisation indépendante que serait Wagner, plutôt qu'une ramification, une succursale.
L'important aussi, c'est quand on voit que c'est le moment où la Russie s'implique dans le conflit syrien qu'on voit apparaître, et en Libye, le groupe Wagner, le début, et puis évidemment, en 2014, l'annexion de la Crimée, où on voit, pour la première fois, des soldats, mais qui ne sont pas attachables à un État en particulier, sans écusson, sur les écrans de télévision au moment de l'annexion de la Crimée.
Ceux qu'on a appelés les petits hommes verts.
Voilà, les petits hommes verts.
Les petits hommes verts, effectivement, dont on soupçonne très fortement aujourd'hui qu'une partie déjà était des hommes de Wagner. Hein. En fait, c'est l'origine. Hein, parce qu'en Syrie, on a ce groupe
slave
qui mue. Qui mue au moment, parce
et ça ne fonctionne pas. Le corps slave est en Syrie en 2013 et en fait rate sa mission, se fait bombarder et ça ne fonctionne pas.
Et ça ne fonctionne pas. Et donc ils reviennent avec beaucoup moins de membres que ceux qui étaient partis au départ. Donc au départ c'était une légion de
1200,
1300. Et au moment de l'opération en Crimée, et surtout le moment où le Kremlin lance ses activités souterraines au Donbass, là, il y a une documentation plus précise de l'activité de ces hommes qu'on définit à tort à l'époque comme des mercenaires et comme des paramilitaires.
Alors qu'en réalité, ils sont probablement plus organisés que ça, et c'est probablement déjà le groupe Wagner. Est-ce que ça veut dire, selon vous, que voyant la situation qui était en train de se dégrader après l'annexion de la Crimée et dans le Donbass, Evgeny Prigogine s'est dit « là, quelque part, il y a une opportunité économique. Tout à coup, il y a un terrain de guerre et en fait, je peux aller faire de l'argent là-bas ».
Certainement, mais je ne pense pas que c'est une dynamique importante, mais je ne pense pas que c'est la dynamique principale. La dynamique principale, c'est du côté du Kremlin qu'il faut la voir. C'est le Kremlin qui s'est dit que là, il y avait un outil particulièrement utile, particulièrement maniable pour conduire ces opérations sous le seuil de guerre hybride en Ukraine sans être déclaré. Et donc, quoi de mieux qu'utiliser un organisme hybride pour conduire des opérations hybrides. En fait, c'est d'abord ça. Il y a eu une conjonction entre un grand projet et un corpus de pratiques que souhaitait développer le Kremlin et l'opportunisme et l'intelligence situationnelle d'un homme, Prigogine. Mais les deux ont vraiment fonctionné main dans la main.
D'accord. Alors, on l'a dit, le groupe Wagner est une société privée. Elle n'est en réalité pas la première du genre, puisqu'on pourrait penser à la société Blackwater, vous avez déjà cité tout à l'heure, qu'on a vu active notamment en Irak, en Afghanistan, pour le compte des États-Unis. Elle a été créée en 1997 et est depuis devenue académie.
Oui, les sociétés militaires privées, ce n'est pas une spécialité russe. Alors, pour retracer l'histoire de ces sociétés militaires privées, les SMP, j'en ai discuté avec Amandine Dussoulier. Elle est chercheuse en relations internationales et observatrice Russie à l'Observatoire Pharos. Et elle m'a expliqué que les sociétés militaires privées, elles étaient nées, en fait, au moment de la fin de la guerre froide.
On peut dire que c'est lié directement à la guerre froide, puisque la guerre froide, en fait, a vraiment eu un impact sur la façon dont les États ont perçu, en fait, le monde de la sécurité, puisqu'elles ont décidé de mettre en place notamment ce qu'on appelle la privatisation, et qui est en fait directement liée à la nouvelle politique du néolibéralisme, portée notamment par Reagan ou encore Margaret Thatcher. Et en fait, à partir de ce moment-là, eh bien, les États ont décidé de réduire leur capacité de défense, puisque comme la guerre froide était en soi finie, les moyens nécessaires pour lutter dans ce contexte, eh bien, avaient diminué. Et donc, ils ont préféré, on va dire, voilà, rationaliser, se débarrasser ou en tous les cas réduire leur capacité de défense pour en tous les cas leur armée régulière, et alors de s'appuyer davantage sur le secteur privé qui proposait des hommes qui étaient formés, qui étaient auparavant au sein de ces armées, et bien entendu le matériel dont ils n'avaient plus besoin et qui s'était écoulé dans d'autres filières.
Oui, c'est ça aussi. Il y a à ce moment-là, en termes d'armes, des surplus qui se retrouvent un peu dans la nature et qui sont rachetés alors par ces sociétés militaires privées ?
Oui, voilà, c'est ça. Donc, effectivement, notamment avec l'éclatement du bloc soviétique, eh bien, voilà, il y a eu tout un système qui s'est effondré et qui a permis, eh bien, à des armes, à du matériel lourd, etc., d'être, si pas rachetés, en tous les cas, eh bien, ont été écoulés via, notamment des trafics. Hein, il faut quand même bien en parler. Et finalement, ça a permis à des sociétés d'avoir de façon plus ou moins légale du matériel qui, eh bien, leur permettait de mener à bien leurs activités en tant que société militaire privée.
Et ces sociétés militaires privées, elles viennent de quel pays ? Elles sont américaines, Blackwater notamment ?
Oui, voilà, il y a pas mal de pays qui ont des sociétés militaires privées. Les plus connues, souvent, on pense à celles venant des États-Unis, mais il y en a également en Grande-Bretagne, il y en a également en France. Il y a quand même aussi en Afrique, notamment en Afrique du Sud, il y a aussi des sociétés militaires privées. Et puis, dans les anciens pays du bloc de l'Est, on en retrouve aussi. Donc, c'est vraiment un type de société qui s'est développée à travers le monde, et en cherchant bien, on peut en trouver, à mon avis, dans la plupart des pays.
Et concrètement, qu'est-ce qu'elles font, ces sociétés militaires privées sur le terrain ?
Alors concrètement, leurs activités peuvent être très larges. Hein. On peut avoir notamment la participation à des missions de combat, mais aussi la protection de sites d'extraction. Hein. Donc les sites d'extraction, on l'a vu en Syrie notamment. Il y a également la formation des forces armées locales et de garde du corps présidentiel. Ça, c'est vraiment quelque chose de très présent en Afrique subsaharienne. Et puis on a aussi l'évacuation médicalisée aéroportée de soldats. Ça, c'est un aspect qui est notamment présent au sein de l'armée américaine, qui fait appel à des sociétés militaires privées qui disposent notamment d'hélicoptères pour aider à déplacer des soldats qui ont été blessés. Et puis alors, plus largement, il y a tout ce qui relève du soutien logistique.
Alors en quoi est-ce que ces sociétés militaires privées sont différentes des mercenaires qu'on connaît aussi sur les terrains de guerre, en Afrique notamment ?
Alors les SMP, il faut vraiment bien savoir et se dire que ce sont des entreprises commerciales, donc axées sur les bénéfices et qui fournissent des services militaires et de sécurité. Alors, ce qui est également important de savoir, c'est que ce sont des entreprises qui ont un statut juridique. Donc, elles ont dû prévoir la mise en place de contrats entre, leurs services et les militaires qu'elles décident d'engager, puisque ce sont bien des militaires, donc des personnes qui ont une formation spécialisée en matière de sécurité pour mener ces activités. Et ces SMP sont aussi différentes de ce qu'on appelle les entreprises de sécurité privées, qui sont plutôt actives dans le gardiennage et la surveillance. Et un autre point aussi, c'est cette idée qu'on a le monde des mercenaires, mais il faut savoir que les mercenaires freelance, qu'on a tendance à associer au SMP, sont complètement différents, puisque généralement, ce sont des personnes qui sont directement engagées de manière individuelle par des gouvernements, voire des groupes rebelles.
Alors, si ce sont des sociétés privées, forcément, elles ont besoin d'une rentabilité commerciale. Comment est-ce que ces SMP, ces sociétés militaires privées, assurent la rentabilité commerciale? Parce qu'il y a des risques, évidemment. C'est des terrains de guerre, c'est des terrains où il y a possiblement des pertes importantes. Comment est-ce qu'elles peuvent assurer leur rentabilité?
Elle peut assurer leur rentabilité, notamment en proposant des prix très attractifs. Donc, ça va tout de suite attirer les clients qui vont vouloir et bien travailler avec des sociétés qui, en participant notamment à des combats ou à des missions à risque, vont se faire une réputation. Et certaines entreprises, la réputation n'est plus à refaire. Et donc, ça permet de maintenir ce système en place et même de le développer.
En quoi est-ce que c'est intéressant pour les États, pour les gouvernements, de faire appel à ces sociétés militaires privées?
Alors, lorsqu'elles travaillent vraiment pour le compte de gouvernement, les SMP permettent ce qu'on appelle le déni plausible et l'absence de preuves au bénéfice des États. Donc, c'est cette idée que les États risquent moins de se retrouver confrontés à leurs responsabilités. Et l'externalisation de certaines activités militaires permet aussi de conserver le soutien de l'opinion publique, qui ne souhaite pas voir ou ne plus voir ses soldats mourir au combat pour des causes qu'elles ne soutiennent peut-être pas et donc ou pour lesquelles elles se demandent pourquoi leur État est impliqué dans des conflits éloignés du territoire national. Toutefois, il faut quand même le dire, il y a eu des dérives, des abus. Le cas le plus célèbre, c'est quand même l'affaire du centre de détention américain d'Abu Ghraib, avec les tortures commises à l'encontre des détenus entre 2003 et 2004. Et puis un autre aspect, c'est que plusieurs experts accusent certaines SMP de renforcer les dysfonctionnements dans les pays d'intervention, dont les gouvernements sont défaillants, et d'entraver même le développement d'institutions étatiques durables. Et puis, certains pensent que les SMP, par leurs activités, prolongent volontairement les hostilités et maintiennent un climat d'insécurité pour maximiser leurs bénéfices, puisque dans un tel contexte, elles seront contraintes de rester plus longtemps pour tenter de satisfaire leurs clients.
Amandine Dussoulier, qui est chercheuse en relations internationales. Alors Nicolas Gosset, est-ce que Wagner, parce que c'est la grande question, est une SMP, une société militaire privée?
Non.
Pourquoi?
Ah, vous êtes catégorique.
Catégorique. Elle n'est pas une compagnie militaire privée parce qu'elle n'est pas privée, de une. Et de deux, la loi russe ne reconnaît pas les compagnies militaires privées. Il y a encore eu en 2019, un débat à la Douma qui a duré plusieurs jours, qui a traité de la question de la possible création en droit russe de compagnies militaires privées. Les députés, qui sont, je le rappelle, une P.O. Box du Kremlin, n'ont pas endossé l'idée. Donc c'était vraiment dans le souhait, la volonté et l'intérêt du Kremlin de ne pas créer de compagnies militaires privées. Parce que c'est une différence importante. Blackwater et Amandine Dussoulier répétaient à juste titre l'énorme scandale de la prison d'Abu Ghraib. Mais dans tous les pays occidentaux et même d'autres, même en Chine, où ces compagnies opèrent, il y a un cadre légal. Là, il n'y a pas de cadre légal.
Mais alors le groupe Wagner, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a une structure qui est enregistrée quelque part?
Alors il y a depuis le 17 janvier 2017... une société anonyme privée, PMC Wagner Group, qui est enregistrée à Saint-Pétersbourg. C'est un développement notable et récent, parce que jusqu'à présent, il n'y avait aucune trace physique ou juridique de quoi que ce soit se rapportant au groupe Wagner. Ça n'existait pas juste. Maintenant, il y a cette entité qui est enregistrée, mais qui, même si à PMC, compagnie militaire privée dans le titre, en fait, dans les statuts de la compagnie, ce ne sont pas des activités d'une société militaire privée. Il n'y a pas de mise à disposition d'hommes. Ça fait de la consultance, du digital, de la recherche scientifique, et alors du leasing d'avions et de matériel militaire, mais pas de mise à disposition d'hommes. Ça, c'est très important. Donc, ce que c'est, parmi les quelques rares académiques qui ont travaillé depuis plusieurs années sur le groupe Wagner, il y a l'idée que c'est essentiellement un prête-nom. C'est en fait un mécanisme mise en place par le ministère russe de la Défense et principalement les services de renseignement militaire pour contracter du personnel extérieur. Donc, à la base, c'est un mécanisme.
Pourquoi est-ce que la Russie fait ça? Pourquoi est-ce que, simplement, alors la Russie ne fait pas appel à son armée?
Parce que, en fait, dans les éléments qui étaient donnés par Amandine précédemment, on retrouve en fait ces facilités dominantes. Hein. C'est-à-dire que, d'une part, et ça me semble très important, ça permet d'engager sur le terrain, dans des zones qui, ou ne sont pas suffisamment prioritaires pour la Russie pour engager ses forces armées classiques, typiquement le Mozambique, même la Libye, même le Mali, voilà, pas envoyer des soldats russes là-bas. Ça permet d'atteindre les objectifs politiques de la Russie sans engager le coût humain et matériel. Et le coût humain et matériel, c'est fondamental parce que, en fait, quand des hommes sous la belle Wagner meurent, ça n'existe pas dans la presse, ça n'existe pas dans les médias, ça n'est pas évoqué par les familles. Il n'y a pas une Anna Politkovskaya qui va aller faire une enquête sur ce que sont devenus les disparus de Wagner, ce qui a d'ailleurs coûté la vie à Politkovskaya en 2006. Donc, en fait, ça permet d'agir sur le radar. Et Amandine Dussollier parlait du déni plausible. Ça, c'est effectivement quelque chose de fondamental parce que ça permet à la Russie de s'engager, d'être présente, de servir ses intérêts sans couverture visible. Maintenant, avec le travail journalistique et la visibilité énorme qu'a atteint le groupe Wagner à l'international, le déni plausible devient quelque chose de beaucoup plus ténu puisque il n'y a pas un pays aujourd'hui où Wagner opère, où en fait on ne sait pas que Wagner est là et où ça sert effectivement les intérêts de la Russie. Donc je pense que le mécanisme domestique de non-justification, de non-mise en avant, ça n'existe pas, comme l'a dit à plusieurs reprises Vladimir Poutine. C'est l'argument prioritaire.
La première, l'histoire continue. Bertrand N. Hélène Maquet.
Nicolas Gosset, vous nous disiez donc que le groupe Wagner, pour vous, vous étiez catégorique, c'est pas une société militaire privée. Est-ce que, pour bien se représenter ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau dans le paysage de la sécurité, dans le paysage militaire mondial, ou est-ce que peut-être on doit faire référence à ce qui existait avant, ce qu'on appelait simplement des mercenaires qui travaillent pour le nom d'un État? Ça existait beaucoup dans le passé, et si on reprend l'histoire militaire, 17e, 16e, 15e siècle, il y en avait beaucoup. Est-ce que c'est ça?
Alors, il y a des mercenaires depuis qu'il y a des hommes sur Terre et depuis qu'il y a la guerre. Mais depuis la codification du droit de la guerre, il y a un instrument qui s'appelle la Convention de Genève, qui, dans le protocole additionnel, définit ce qu'est un mercenaire. Et un mercenaire, alors les hommes de Wagner ou sous la belle Wagner en Afrique peuvent tomber à titre individuel sous la définition du mercenaire. Par contre, en Ukraine aujourd'hui, dans le contexte de la guerre, pas du tout. Un mercenaire ne peut pas être ressortissant d'un des États protagonistes au conflit.
Ah oui.
Donc, dans le cas de la guerre d'Ukraine, les hommes qui opèrent pour le compte de Wagner et qui sont payés via Wagner par le budget de l'État russe.
Ou qui viennent des prisons, etc.,
oui,
par exemple.
Et qui sont payés, et je le maintiens, je le dis à Essian, qui sont payés sur le budget de l'État russe. L'argent transite via Wagner. Ces gens ne sont pas des mercenaires au regard du droit international. Ce sont des combattants irréguliers de la Fédération de Russie, mais ce sont des combattants de la Fédération de Russie.
Qui donc, violent les conventions internationales.
Donc. Évidemment, mais les conventions internationales, la Convention de Genève, elle est déchirée, piétinée et tous les jours en Ukraine. Et pas que là, en Afrique aussi. Hein, parce que quand on voit ce qui se passe, le témoignage que vous avez passé de ce monsieur en Libye et au Mali est absolument abominable. Hein. Mais donc, effectivement, mercenaire, ça correspondrait à une catégorie individuelle. Dans ce cas-là, le groupe Wagner, l'entité Wagner, n'est pas une entreprise employant des mercenaires.
Alors, vous parliez à l'instant de la présence en Afrique. Il y a deux questions encore qui se posent sur le groupe Wagner et... Une d'entre elles, vous avez commencé à l'évoquer et on y reviendra, c'est est-ce que le groupe Wagner à l'étranger est en train d'opérer en réalité sur le calque des ambitions géostratégiques de la Russie? Et par ailleurs, comment le groupe Wagner assure-t-il sa rentabilité, notamment à l'étranger? Ça, c'est aussi une vraie question en Afrique. Le groupe Wagner est présent sur le terrain, mais est aussi en train de faire de l'argent.
Fait principalement de l'argent.
Comment?
Elle est là pour faire de l'argent. Ça dépend des cas, mais regardez tous les pays dans lesquels demi-douzaine aujourd'hui, hein, même peut-être un peu plus, où Wagner est présent. Ben, la République centrafricaine, les diamants, souvenons-nous de Bokassa, le Mali, les mines d'or.
Comment est-ce qu'ils font concrètement pour avoir accès à ces diamants et à cet or ?
Mais en fait, ils obtiennent des facilités des gouvernements pour opérer dans une optique d'abord de protection, de garde prétorienne du pouvoir en place. Et puis, en fait, comme ces gens coûtent cher. L'État malien sur son budget propre ou l'État centrafricain n'a pas les moyens, en levant un impôt conventionnel, de payer ces
gardes du corps de luxe, en fait, et donc, pour les ministres, ça. Pour le gouvernement.
Et donc, ils raquettent sur un système vraiment, et là, en l'occurrence, je reviens sur ce que M. N disait, sur un système typique des mercenaires de la Renaissance européenne, les mercenaires tels qu'on les a toujours connus, c'est-à-dire les mercenaires sont des gens qui se paient sur le corps de la bête dans leur champ d'activité. Donc, n'oublions pas qu'effectivement, ils sont là pour rendre leur entreprise profitable. Alors, ce qui est impossible à savoir, mais c'est dans quelle mesure l'État russe lui-même profite ou ceux qui incarnent l'État russe profitent des activités de Wagner. On ne sait pas, en gros, comment se passe le transfert des fonds entre l'État et l'organisation et inverse.
Est-ce que ça permet simplement que, quelque part, Wagner soit indépendante financièrement parce que les miliciens, militaires, comment faut-il les appeler, les membres de Wagner, en tout cas, sont mieux payés plutôt qu'un soldat russe. Ils reçoivent quand même des salaires importants.
Alors, ça dépend des terrains. Ceux qui partent au Mali, par exemple, ou en République centrafricaine, qui répondent encore à la logique un peu historique de Wagner, des anciens du Guérou, des anciens... En Libye, ce n'est pas du tout le cas. En Libye, ceux qui travaillaient pour le général Haftar, qui s'est trouvé floué d'ailleurs, c'était pour beaucoup des miliciens syriens qui avaient été transférés par avion sous la belle Wagner en Libye. Le cas ukrainien est encore différent, parce que là, en l'occurrence, ces gens...
Ça vient de la chair à canon, là.
Oui, j'aime pas beaucoup utiliser le mot, mais effectivement, ce sont des supplétifs qui sont envoyés au front pour faire les tâches de première ligne qui suscitent un malaise dans les rangs de l'armée russe.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Nicolas Gosset, que ce bras un peu clandestin de l'armée russe, j'ai envie de le dire comme ça, ou qu'on a voulu clandestin pour
J'aime bien
mener
comment
des,
vous le dites.
Voilà, des opérations
c'est
hybrides.
C'est vraiment ça.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ce soit une armée dans l'armée, un État dans l'État aussi? On parle beaucoup de ce qu'Evgeny Prigojine pourrait remplacer un jour Vladimir Poutine. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi?
Alors, l'État dans l'État, je suis plus en doute. L'armée dans l'armée, bon, aujourd'hui, Wagner, c'est... on ne sait pas vraiment, mais on pense qu'en Ukraine, on est aux alentours de 50 000 hommes. Les contingents africains sont généralement des contingents de 1 000 à 2500 pour les plus importants, notamment au Mali. Donc, comptons une force militaire de 80 à 100 000 hommes.
C'est beaucoup, quand même.
C'est beaucoup, mais par rapport à l'armée russe, c'est peu. Ceci étant, il y a effectivement, et alors on pourrait en parler très longtemps parce qu'il y a des dynamiques de coordination très étroites entre l'armée russe et Wagner sur le terrain en Ukraine, et dans le même temps, il y a des dynamiques de compétition évidentes. Je résumerai ça en une maxime qui est tout ce que Wagner gagne, c'est la Fédération de Russie qui gagne, c'est l'armée russe qui gagne. Tout ce que Wagner perd, c'est de la faute à Wagner, c'est Wagner, point barre. Donc Wagner est responsable de ses échecs, mais ses gains sont ceux de l'armée et de la Fédération. Et en ce sens-là, c'est un bras armé, c'est un supplétif, c'est un outil. Et à souligner que c'est nouveau dans son extension, mais c'était déjà quelque chose qui existait à l'époque soviétique. Il y avait déjà à l'époque soviétique des officines parallèles qui étaient utilisées pour faire des basses besognes dans le contexte de la guerre froide et qui ont muté dans l'Afrique du Sud de l'apartheid, qui est devenu un réservoir incroyable de mercenaires.
Alors on va peut-être terminer sur cette personnalité d'Evgeny Prigojine. C'est aussi la question que Bertrand posait. Est-ce que lui, qui était effectivement cet homme d'affaires mi-truand, mi-cuisinier de Saint-Pétersbourg en costume trois pièces il y a encore quelques années, que maintenant on voit entrer militaire dans des grottes sur le front ukrainien, est-ce que lui est en train de prendre un nouveau rôle auprès de Vladimir Poutine, au sein de l'autorité russe? Est-ce que c'est quelqu'un qu'on pourrait voir dans les prochaines années, dans les prochains mois, prendre des responsabilités officielles encore plus importantes?
Alors c'est en tout cas quelqu'un qui a obtenu une notoriété publique immense en très peu de temps, puisqu'il était largement inconnu du grand public il y a encore 2-3 ans d'ici. Il a en fait développé, étendu un réseau parallèle aux structures de force qui tiennent historiquement le poutinisme, ce qu'on appelle les siloviki. Les siloviki, c'est tous ceux qui sont détenteurs de la force dans l'État russe. C'est les procureurs, les militaires, le FSB. Prigojine et Kadyrov, ce sont des réseaux parallèles.
Kadyrov, c'est le Tchétchénie.
Le Tchétchène, qui ont finalement, en symbiose d'abord avec les siloviki, mais de plus en plus, ont développé des réseaux qui ont pris l'ascendant.
Kadyrov qui a aussi sa milice paramilitaire personnelle.
Oui, tout à fait. Tout à fait, et qui est aussi présent en Ukraine. Et donc, il a d'abord, mais dans une logique d'allégeance au chef, de service au chef, de service à Poutine, en gros, accepté d'endosser toutes les basses besognes du projet ukrainien et ailleurs. Donc, il y a une symbiose, il n'y a pas de compétition avec Poutine. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que visiblement, la soif de visibilité et de publicité de M. Prigojine, qui presque tous les jours, se targue de postes incendiaires sur l'armée, sur les choix stratégiques faits en Ukraine, est quelque chose qui a commencé à déplaire dans les plus hautes sphères. Donc il y a une volonté non pas de se débarrasser de Prigojine, mais de le ramener là où il appartient, c'est-à-dire à Mr. Hyde, des basses œuvres du Kremlin.
Le groupe Wagner et les basses besognes de l'armée russe, du Kremlin. Merci beaucoup Nicolas Gosset.
Merci Hélène
d'avoir été avec nous aujourd'hui pour refaire l'histoire de ce groupe Wagner et tenter de comprendre à quel point il est important dans ce conflit.
Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'histoire continue.
Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy.